Lizzie présente Le sortilège de Stellata de Daniela Remondi, lu par Valérie Lemaître. À Guido. Le 18 juillet de l'an de grâce 1412, un duc venu d'Égypte, du nom d'André, est arrivé à Bologne avec les femmes, les enfants et les hommes de son pays. Ils étaient peut-être jusqu'à 100. Ludovico Antonio Muratori. Rerum Italacarum Scriptores. Tome 23, 1733. Nous sommes de l'étoffe dont sont faits les rêves, et notre petite vie est entourée de sommeil. William Shakespeare, La Tempête. Acte 4, scène 1, 1611. On voudrait faire parler les morts. On voudrait surtout qu'ils reviennent pour de vrai et non pas simplement dans nos rêves où ils sont à côté de nous, mais si lointains et si absents. Patrick Modiano, Chien de printemps, édition du Seuil, 1993. Prologue. Tout a commencé avec la tzigane. C'est ce que me répétait souvent ma grand-mère dans son tablier blanc, les manches retroussées jusqu'au coude en préparant la paste. Elle laissait tomber les œufs dans un volcan de farine et commençait à me raconter l'histoire de notre ancêtre tzigane. Un mouvement léger du poignet, crac, un œuf. Un autre mouvement, crac, un autre. Elle travaillait la pâte et elle parlait, elle pleurait, elle riait. Elle était persuadée que c'était à cause du mariage d'un de nos ancêtres avec cette tzigane, 2 siècles plus tôt, que la moitié de la famille avait la peau claire et les yeux bleus, quand l'autre naissait avec des cheveux noirs corbeaux et des yeux de jais. Ce n'était pas seulement des divagations de vieilles dames. L'arrivée des tziganes dans le petit village de Stellata, le berceau de ma famille, est attestée par un très vieux document conservé aux archives historiques de la bibliothèque communale Ariostea, à Ferrare. Le cortège des tziganes avait fait son apparition à Stellata un jour de pluie apocalyptique. C'était au mois de novembre. Il pleuvait à verse depuis des semaines. Les champs avaient disparu sous l'eau, puis les sentiers, les rues, les cours intérieurs et même la place du village. On avait commencé à se déplacer en barque. Stellata avait fini par se transformer en une sorte de petite Venise, mais dans une version misérable, sans les palais et les gondoles, avec des habitations délabrées, des embarcations pourries et les eaux saumâtres du fleuve. Les caravanes des tziganes s'étaient avancées péniblement sur le pont de barque, en grinçant, et elles avaient continué sur la route qui longe la berge du Pô. Les pattes des bêtes s'enfonçaient dans la boue sous une pluie diluvienne. Les roues s'étaient coincées, le bois craquait, les voitures avaient fini par s'enliser dans la vase. Les hommes avaient travaillé jusque tard dans la nuit pour essayer de les dégager, mais pour 5 des caravanes, il n'y eut rien à faire. Les tziganes avaient été obligés de faire une halte au village, en attendant que le temps s'améliore. Quand la pluie s'était arrêtée, on avait libéré les caravanes et remplacer les roues. Mais le départ des étrangers avait encore été remis plusieurs fois à cause de toute une série d'événements. D'abord, on avait dû attendre l'issue d'un accouchement difficile. Puis, quelqu'un avait été atteint de dysenterie, et pour finir, un de leurs chevaux était mort. Lorsqu'ils furent enfin prêts à repartir, un des hivers les plus rigoureux du siècle plongea le village dans un froid glacial. Prendre la route sembla à tous une idée insensée. Pour briser la longue monotonie de l'hiver, certains tziganes s'occupèrent en ferrant les chevaux. D'autres commencèrent à vendre au marché des paniers d'osier, des rênes d'attelage, des tamis et des tambourins. Et d'autres encore se mirent à jouer de la musique pour les baptêmes et les mariages. Le printemps arriva et passa. Durant l'été, une épidémie de typhus éclata. Le village fut isolé. La vie des tziganes s'organisait au rythme des saisons. Sans que les habitants de Stellata s'en rendent vraiment compte, l'hostilité envers les nouveaux arrivés se transforma insensiblement en habitude. Les vieux mouraient, les enfants naissaient, et les jeunes tombaient amoureux sans trop prêter attention aux différences. En quelques générations, du sang tsigane coulait dans les veines d'un tiers des habitants de Stellata. C'est ici que mon ancêtre, Giacomo Casadio, fait son entrée en scène. À Stellata, il était connu pour être un garçon solitaire, au tempérament mélancolique. Mais la nature l'avait doté d'une grande imagination et d'inspiration de visionnaire. Il rêvait de construire des barques, pas les modestes embarcations qu'on voyait passer d'habitude sur le Pô. Lui imaginait des vaisseaux avec des soutes qui auraient contenu du blé, du bois, du chanvre, des volailles, mais aussi des vaches, des chevaux. Quelque chose qui aurait ressemblé à l'arche de Noé. Il en avait eu l'idée enfant, au presbytère. En feuilletant la Bible, il était tombé sur une image de l'arche prête à prendre le large. Elle était très belle, tout arrondie, avec les têtes des lions et des girafes qui dépassaient des petites fenêtres. Et plus bas, les rangées de canards, les coqs, les poules et les couples de chèvres, les dromadaires, les moutons et les bourricots. Une barque capable de défier le déluge et de sauver tous les êtres vivants de la terre. Cette image biblique était à l'origine de son obsession. Devenu adulte, Giacomo commença à construire des arches chez lui, dans la cour. Il y avait longuement réfléchi. Le fleuve était depuis toujours la voie de transport la plus rapide, avec les allées et venues incessantes des gens, des charrettes et des bêtes, et aussi les pêcheurs, les ramasseurs de grenouilles, les chercheurs de sable. Le Pô était large et profond. Stellata pouvait devenir un grand port fluvial. Il mit 3 ans à achever son projet. Quand l'arche fut prête, Giacomo attendit le 4 décembre, le jour de la Sainte Barbe, la protectrice des marins, et il la mit à l'eau. Ce matin-là, une grande agitation animait le village. Tout le monde était réuni sur la berge pour profiter du spectacle. Même le curé était venu, avec le crucifix, les enfants de chœur et l'eau bénite. Une énorme remorque, tirée par 12 bœufs, traîna l'embarcation jusqu'au fleuve. Sur ses rives boueuses, les hommes les plus forts commencèrent à pousser l'arche, en déplaçant l'un après l'autre les troncs sur lesquels elle était posée, pour la faire glisser, d'abord hors de la remorque, puis le long de la rive. Il y eut des cris de stupeur, des encouragements, beaucoup de vacillements et une attente trépidante. Finalement, l'arche se retrouva sur le Pô, dans un rugissement d'exclamations et d'applaudissements. De son long pas dégingandé, Giacomo monta à bord l'air triomphant. Il salua la foule réunie sur la rive, avec ses yeux bleus qui brillaient et la poitrine gonflée d'émotion. Jamais de sa vie n'avait connu un tel bonheur. Malheureusement, l'arche n'alla pas très loin. En moins d'une heure, elle coula. Giacomo tomba dans un état d'abattement profond qui dura tout l'hiver. Ses parents étaient tellement inquiets que son père lui suggéra finalement de réessayer. « Tu as une tête bien faite. La prochaine fois, ta barque, tu l'emmènes jusqu'à la mer », dit-il avec conviction. Porté par ses encouragements, Giacomo surmonta son désespoir et commença à construire une deuxième arche. Mais il n'eut pas plus de chance. Il alla jusqu'à en fabriquer une demi-douzaine, mais toutes finirent par couler les unes après les autres. 2 réussirent à flotter quelques jours. Avec la 6e, Giacomo arriva même à rejoindre Comacchio et le delta du Pô. Mais au moment où il pensait avoir accompli son exploit, l'embarcation commença à se remplir d'eau et coula en quelques heures. À cet endroit du fleuve, le niveau était bas. Et on raconte que pendant plusieurs générations, les pêcheurs d'anguilles apercevaient le grand mât qui dépassait de la surface de l'eau.